Actes des Apôtres, chapitre 12.
Il s'agit de la délivrance de l'apôtre Pierre qui avait été mis en prison. Chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer, qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Nous avons là ce roi Hérode, dont il faut d'abord que nous disions un mot, parce que il y en eut en réalité 3. Il y eut d'abord le Hérode qui régnait à la naissance du Seigneur Jésus, et qui fut celui qui ordonna le massacre des enfants de Bethléem. Vous savez que Joseph et Marie durent s'en aller, avertis par un ange, s'en allèrent en Égypte pour soustraire l'enfant Jésus à ce massacre. C'était Hérode le Grand, appelé le Grand. Puis, un peu plus tard, vint un autre Hérode, appelé Hérode Antipas, qui était le fils d'Hérode le Grand. Et ce fut lui qui régna pendant le ministère de Jésus. Ce fut lui qui fut, par conséquent, le meurtrier de Jean-Baptiste. Et enfin, nous sommes à l'époque des Actes, là, c'est un troisième Hérode qui règne maintenant, c'est le neveu du précédent, d'Hérode Antipas, et il se nomme Hérode Agrippa. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, nous dit notre récit, Hérode fait arrêter Pierre. Il avait besoin, grand besoin, de se concilier les Juifs. Alors, comme ce qu'il vient de faire, l'arrestation de Jacques et sa mise à mort a provoqué un grand contentement au milieu des Juifs, alors il continue, il arrête Pierre dans le but, bien sûr, de le faire mourir. Mais on était là dans les jours sans levain, tout près de la Pâque, et il attend pour faire cela que la Pâque soit passée. Alors il diffère donc l'exécution de Pierre, et Hérode, ainsi engagé, aurait, lui, fait mourir les apôtres, tous les apôtres, et il aurait, bien sûr, porté ainsi un coup très sévère à l'Église naissante. Et c'est pourquoi nous voyons que Dieu arrête. Il y a des moments où Dieu doit intervenir lui-même. Dieu est malgré tout réservé dans le temps de l'Église, quant à des interventions spectaculaires, disons, miraculeuses, éclatantes, comme celles que nous voyons ici. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que ces interventions-là, interventions éclatantes, nous, peut-être nous les désirerions, enfin, nous voudrions bien qu'il y en ait très souvent, hein, quand nous avons quelque chose, serions bien contents que Dieu intervienne. Mais ça ne se concilie pas avec le temps de la patience de Dieu, avec le temps de la grâce, le temps de la foi. Les hommes ne peuvent être sauvés que par la foi, et non par la vue, et non par des actes qui constituent malgré tout une contrainte. D'ailleurs, nous savons que la contrainte des événements, l'évidence, par exemple, de la puissance de Dieu dans un acte miraculeux, cette puissance, évidence, cette évidence, n'est pas propre à convertir les hommes. Bientôt, nous allons voir un grand événement et une grande action de Dieu qui est décrite par le prophète Ésaïe, c'est la fameuse guerre de Gog. Elle se prépare maintenant dans les événements, et alors là, Dieu va intervenir aussi, ne peut pas manquer de le faire, intervenir de façon éclatante, lorsque la Russie, avec tous ses alliés, fera descendre cette immense armée, dont une partie est déjà prête en Syrie, puisqu'il y a déjà 2900 chars russes qui sont là amassés. Eh bien, quand cette armée fondra comme une tempête, ce sont les propres termes du prophète, viendra comme une sorte de rouleau compresseur descendant sur la Galilée, alors à ce moment-là, Dieu intervient. Nous savons comment il interviendra, n'est-ce pas, d'une façon catégorique, et alors, selon l'expression de la Bible juive de Zadoktan, la cohue de Gog, la multitude, dit notre version seconde, la cohue de Gog sera alors là réduite à rien, il y aura une hécatombe extraordinaire. Alors Dieu interviendra. Mais il est dit que les nations sauront que l'Éternel est intervenu, et les nations seront obligées de le reconnaître. Ils connaîtront que l'Éternel est intervenu. Vous croyez qu'elles se convertiront pour autant? Non, ils seront obligés d'admettre. Ils seront obligés d'admettre. Même des gens qui maintenant ne croient pas à Dieu seront obligés d'admettre ça. C'est pas possible, c'est inexplicable. Les choses seront inexplicables. Vraiment, le Dieu d'Abraham, Israël et Jacob, est intervenu en faveur de son peuple. Il n'y a pas d'autre explication. Je me glorifierai aux yeux de toutes les nations. Elles connaîtront que l'Éternel est intervenu, mais cela ne les convertira pas. C'est donc pourquoi n'emploie pas et emploie rarement sa puissance de cette manière. La puissance s'emploie maintenant dans l'Évangile. Elle passe à travers l'Évangile. Ça, l'Évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. La voilà, la puissance maintenant. Mais je vous dis, ça ne va pas durer toujours. Alors, revenons à notre récit. Pierre, lui, est en prison, une solide prison, après les détails que nous avons dans le récit, et il est gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune, 4 fois 4, 16, ce qui fait 16 soldats pour garder un seul homme. 16 soldats. Et pendant ce temps, l'Église, elle prie sans relâche. C'est son rôle. Ah, le monde, vous le voyez, le monde veille quand il s'agit de tenir captif un serviteur de Dieu, quand il s'agit d'entraver l'Évangile. Ah ça, le monde emploie, lui, sa puissance à lui, toute sa puissance. La force, les chaînes, les prisons, avec des barreaux, avec des portes massives et lourdes et bien fermées, des soldats, le monde emploie, lui, sa puissance. Et l'Église emploie la sienne. Mais la sienne peut paraître là une petite puissance. Elle prie, ils sont là rassemblés dans une pièce, dans un, mettons, un appartement. Il y a un vestibule, il y a des pièces. Ils sont là rassemblés et ils prient. Et l'on peut dire que la puissance de l'Église paraît bien minime à côté de celle du monde. Mais il y a pourtant deux puissances qui luttent l'une contre l'autre. Et il faut que nous pensions à cela pour maintenant. Le monde est puissant par ses raisonnements, par ses prétentions, par les moyens dont il dispose, les masses médias, pour imposer son ordre, pour imposer ses vues, pour entraîner le monde dans des notions qui sont mensongères. Il dispose de puissance. Mais l'Église doit disposer de la sienne. Et la sienne, elle est toute contenue dans la prière, l'humble prière d'enfants soumis à leur père. Car il faut que ce soit la prière des justes. Mais par leur faible voix, les membres de l'Église vont pourtant gagner la partie. Ils vont gagner la partie, les membres de l'Église. Ils vont briser la force du monde et de Satan. Ils vont faire descendre un ange du ciel. Ils vont accomplir la volonté de Dieu qui est que Pierre soit libre pour poursuivre sa mission. Alors, le récit nous montre Pierre lié de deux chaînes. Elles étaient sans doute attachées à ses pieds, des gros bracelets, vous savez, à ses chevilles, et des grosses chaînes. Avec ça, il aurait eu du mal, le malheureux, de s'en aller tout seul. Il est là, et cependant, il dort. Ah, ça c'est merveilleux, il dormait, je ne sais pas si nous aurions peut-être dormi à sa place, ou alors vraiment accablé de fatigue, mais lui, il dormait, il était calme, il était tranquille dans cette épreuve. C'est que Pierre, maintenant, était celui qui avait reçu la puissance du Saint-Esprit, et il était un tout autre Pierre que celui qui reniait son maître, avant la croix. On peut dire aussi que, humainement, la délivrance de Pierre était impossible. On en aurait discuté, par exemple, ce qu'on aurait dit. On aurait dit que je voulais dans cette prison. La connaissez-vous, cette prison? Vous savez pas comment elle est, mais c'est formidable. Formidable, lié de chaînes, avec des soldats qui le gardent, et puis tout est barricadé. C'est impossible, impossible que Pierre soit... Prions, mais enfin, c'est impossible que Pierre soit délivré. La délivrance de Pierre est donc, à vue humaine, quelque chose d'impossible. Seulement, les vues humaines ne sont rien devant l'espérance. L'espérance qui est véritablement fondée sur la parole de Dieu et sur une direction de Dieu. Et certainement, l'Église priait conduite par l'Esprit de Dieu. Il y avait une direction de Dieu. Alors, les vues humaines, à ce moment-là, ne sont rien devant l'espérance de l'Église. Bien sûr, l'Église ignore absolument quel sera le moyen de délivrance de Pierre. En voyant cette prison dont on avait la connaissance, on se dit, c'est pas possible, ça c'est impossible. Mais nous ne regardons pas aux apparences, nous ne regardons pas à ça, nous regardons à l'espérance que Dieu nous donne. Et cette espérance, en somme, était de la nature de celle dont parle l'apôtre Paul dans les Romains, au sujet d'Abraham, disant qu'il espérait contre toute espérance. Il espérait, malgré que toute espérance, humainement, paraissait absolument insolite. Or, voici la délivrance. La voici, elle vient. C'est un ange qui l'apporte. Et alors, nous voyons dans ce récit, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Il y a tout ce qu'il faut, les dieux, il y a tout ce qu'il faut. On pose quelquefois des questions, encore ce soir on posait des questions pour l'arche en me demandant comment Noé avait pu faire pour séjourner si longtemps avec tant d'animaux, etc. Ce que j'ai répondu, c'était ceci, quand Dieu a ordonné une chose... Il l'amène à bonne fin. Une chose que voulue par Dieu est une chose qui ne peut que réussir. Alors, nous voyons l'ange qui dispose de tout ce qui lui est nécessaire, la lumière dans cette sombre prison, et l'ange réveille Pierre, comme... un homme, par exemple, l'aurait fait en le frappant au côté. Remarquez ceci, c'est qu'un ange peut alors nous toucher, nous frapper au côté, n'est-ce pas ? C'est assez extraordinaire. Et en disant, l'ange peut parler aussi dans la langue que l'on comprend. Lève-toi promptement. Vous voyez, l'ange dispose de tous les moyens nécessaires. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Elles étaient aux mains, je disais tout à l'heure aux pieds. Non, elles étaient aux mains, voyez-vous. Elles étaient aux mains. Il y avait des bracelets, là, et c'était des chaînes qui lui tenaient les mains et les bras. Elles tombent. Comment l'ange peut-il faire ? La puissance de Dieu est capable de tout. Et l'ange... dira à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Il s'était un peu défait, plus pour se reposer, plus commodément. Mets ta ceinture et tes sandales. Et Pierre fait ainsi un peu machinalement parce que il est comme dans un rêve. Et ensuite l'ange lui dit aussi, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. C'était la nuit, faisait frais. Vous voyez les précautions que l'ange prend pour faire sortir Pierre dans la rue, enveloppe-toi de ton manteau, c'est quelque chose vraiment de délicieux, de magnifique, n'est-ce pas ? La délivrance de Dieu, vous voyez, quand elle vient, elle se met à notre portée, à notre niveau. Nous voyons donc que Dieu peut employer les anges. Et l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre premier, nous dit en effet qu'il emploie les anges pour délivrer, quand c'est nécessaire, en tout cas, il les emploie au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ceux qui, par conséquent, sont dans des chrétiens qui sont dans la lumière. Alors, Dieu peut employer les anges, et cela, nous avons eu l'occasion de le constater dans bien des circonstances, Moi, personnellement, j'ai connu plusieurs circonstances où manifestement, je n'ai pas vu l'ange, je sais pas, mais où manifestement, un ange est intervenu, les choses sont inexplicables autrement. Inexplicables. Je ne vais pas vous raconter ces choses-là maintenant parce que ça nous retiendrait trop longtemps, mais il est absolument certain que même à notre époque maintenant, comme le dit l'Épître aux Hébreux, des anges peuvent intervenir en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Si nous sommes dans l'obéissance à Dieu, nous sommes soumis à Dieu, nous exerçons cette piété qui est si chère au Seigneur, eh bien, quelque chose survient, le Seigneur peut nous délivrer par le moyen des anges. Les anges, donc, peuvent veiller, garder, la notion d'ange gardien n'est pas étrangère à la révélation, ils peuvent protéger, ils aident, et ils se réjouissent même de nos progrès spirituels. Toutefois, la sanctification et le salut sont uniquement l'œuvre de l'Esprit, et non pas des anges. Il n'y a qu'à tout à fait à la fin, quand l'Église sera enlevée, que trois anges parcourront la terre pour délivrer les derniers avertissements de Dieu à la terre. Mais sans quoi, les anges n'annoncent pas l'Évangile, tant que l'Église est là. Et la sanctification n'est pas leur fait, c'est l'œuvre directe de l'Esprit. Alors voilà, Pierre délivré, il s'engage en disant, mais l'ange disparaît. Moi j'aurais été à la place de Pierre, je me suis dit, quel dommage, j'aurais bien voulu que ce merveilleux compagnon reste un petit peu plus longtemps avec moi. Mais non, sa mission terminée, l'ange s'en va. Il faut que Pierre dispose de sa liberté. Il est libre maintenant, mais de sa responsabilité. Et alors que fait-il? Eh bien, il réfléchit et il se rend là où est l'Église, là où sont ses frères et ses sœurs. Alors, il vient et il frappe à la porte. Et il frappe longuement à la porte. Mais quel contraste! Quel contraste avec l'action qui vient de se produire dans la prison, avec la puissance divine exercée par l'ange. Quel contraste! Il y avait là un miracle éclatant, et puis là, il frappe à la porte, on lui ouvre pas, et pourtant ce sont les siens, c'est l'Église en prière qui est là. La porte de fer de la prison, cette lourde porte, s'était ouverte d'elle-même, et tout de suite. Et la porte de bois est longue à s'ouvrir. La délivrance de Dieu est prompte, est franche, est entière. Mais, vous le voyez, la foi de l'homme, la foi de l'Église est encore hésitante, elle est encore discuteuse, elle est encore malheureusement encore assujettie à toutes sortes de considérations. Les apparences la paralysent encore. Reconnaissons que notre foi est imparfaite. L'exaucement peut nous surprendre souvent. Nous ne comptons pas suffisamment sur l'efficacité de nos prières. Et il nous arrive peut-être de prier parce qu'il faut le faire, par acquis de conscience. Oui, quand nous prions, il nous semble peut-être que nous avons la foi. Mais si soudain, Dieu nous place devant l'exaucement qui intervient là, subitement, promptement, brutalement, je dirais, alors on ne sait plus. Et vous voyez, n'est-ce pas, les chrétiens, l'Église qui était là rassemblée, et la petite servante, Rod, qui vient dire, c'est Pierre qui est à la porte. Elle est affolée, elle oublie d'ouvrir la porte à Pierre, mais elle vient dans le fond du vestibule dire, c'est Pierre qui est là.
Mais ma pauvre, tu es folle. Tu es folle, ma pauvre. Tu es folle. Et l'on vient de prier, et l'on a prié depuis plusieurs heures pour la délivrance de Pierre. Comment trouvez-vous ça? Tu es folle, ma pauvre.
Voilà une première leçon qu'il faut recueillir de ce récit. Vous voyez comme notre foi a besoin véritablement de réaliser de grands progrès. Le Seigneur Jésus nous a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, et il a fait allusion là à une foi d'une certaine qualité. Ce n'est pas la quantité qui compte, parce que le grain de senevé, c'était une expression qu'on employait pour désigner la plus petite quantité d'une chose. Même si vous avez une foi en très petite quantité, mais que cette foi soit de la qualité qui convient, c'est-à-dire une foi solide, une foi qui ne se laisse pas affaiblir, eh bien alors vous transporteriez des montagnes. Et le Seigneur alors de dire, quand vous priez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, et si vous croyez même, alors croire que la chose que vous demandez, vous l'avez obtenue, vous la verrez se produire. Il faut que, sans douter dans le cœur, voyez, il faut que la foi arrive à cela, sans douter. Là, il aurait fallu, dans cette circonstance, que l'Église, dans cet appartement, en entendant Rod, se précipite à la porte, ouvre et puis dise « Louange à toi, merci Seigneur », au lieu de dire « Tu es folle, ma pauvre, de nous annoncer que Pierre est là ». Et puis encore, n'est-ce pas, « Mais c'est pas Pierre, c'est son ange peut-être qui est là ». Tu as reconnu la voix de Pierre, mais non, c'est son ange, c'est pas lui, ça peut pas être lui, voyons, il est dans la prison. Mais on prie pour qu'il soit délivré. Ah oui, mais on croit pas. On croit vraiment pas. C'est extraordinaire. Et puis dans ce passage, et nous terminerons sur cette observation, dans ce passage, nous avons deux événements consécutifs. Nous avons d'abord la délivrance de Pierre par un ange, selon la fidélité de Dieu, selon le plan de Dieu, selon sa bonté, la délivrance de Pierre. Mais nous avons un deuxième événement qui est la mort d'Hérode, la mort d'Hérode, et qui s'opère, elle aussi, par le moyen d'un ange. Alors, il y a un ange qui vient délivrer Pierre, mais peu de temps après, il y a aussi un ange qui vient frapper le roi Hérode de mort selon la justice de Dieu, selon la justice de Dieu. Dieu avait patienté un temps avec cet Hérode, l'avait laissé faire, mais il y avait là un comble que Dieu ne pouvait pas supporter, et là, il est intervenu, il a frappé Hérode. Et ces deux événements ensemble nous montre en somme l'histoire du monde. Et il y a comme là comme la représentation de l'histoire du monde. En effet, Dieu se montre tantôt comme un Dieu juste et jaloux, comme un feu dévorant, dira l'Épître aux Hébreux. Dieu peut se montrer comme un feu dévorant, c'est quelque chose de redoutable que d'être dans la main de Dieu, sous le coup de la justice de Dieu, un Dieu juste et jaloux. Et puis, Dieu se montre aussi comme le Dieu amour, le Dieu de bonté, de fidélité. Et cela, selon que l'on résiste à ses desseins de miséricorde. Ah, Dieu ne n'aime pas, ne peut pas supporter que l'on résiste à ses desseins de miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est quelque chose à quoi Dieu ne veut pas, n'admet pas qu'on touche. Dieu est amour, ne veut pas qu'on touche à sa miséricorde. Et ceux qui se dressent contre ces desseins, entrave ces desseins de miséricorde, ceux-là peuvent être frappés. Et puis, ou alors, n'est-ce pas, on serre les desseins de miséricorde de Dieu, et alors on trouve le Dieu d'amour, le Dieu de bonté.
Il y a donc deux aspects de la puissance publique. L'aspect de la puissance déployée dans le sens de l'amour, et puis la puissance déployée pour la justice, pour accomplir la justice de Dieu. Et nous, chers amis, il faut que nous soyons sages et instruits au point de ne pas séparer l'amour de la justice, car Dieu désire que l'amour et la justice s'embrassent, comme le dit le psaume 85. L'amour et la justice s'embrassent, et l'amour et la justice se rencontrent à la croix du calvaire. C'est là qu'elles se concilient. L'amour et la justice se rencontrent là. Et pour cela, il faut bien sûr que nous soumettions nos cœurs à la parole de Dieu. Si nous voulons vraiment que l'amour de Dieu et la justice de Dieu nous soient favorables ensemble, alors soumettons nos cœurs à sa parole. Du côté de l'amour, nous aurons une protection, une garde. Nous avons le psaume 121 qui contient plusieurs fois le verbe garder, l'Éternel te garde, l'Éternel te protège, te garde. Et puis, de l'autre côté, nous avons la crainte du châtiment, la crainte du jugement, et cette crainte, l'Épître aux Hébreux l'évoque encore devant l'Église, attention à cette crainte. Mais, mes amis, si nous sommes vraiment liés, unis au Seigneur Jésus, notre Maître, alors là, nous sommes dans les voies de la miséricorde de Dieu, et nous n'avons pas à craindre la justice de Dieu, car justice a été faite pour nous à la croix du calvaire. Que le Seigneur soit béni pour cela. Amen.
Toi, Seigneur, et Seigneur.